Donc, entretien réalisé le 2 mai à Rosascape, Dora Garcia et Théodora Domenech. J'ai beaucoup lu donc ces textes, ces documents que vous nous présentez. Et je me suis demandé immédiatement de quoi vous vouliez parler directement. Parce qu'on voit que vous vous intéressez beaucoup donc, à ce sujet, à ce thème qui est un événement, enfin qui est parti d'un événement historique. Mmh. Et en même temps, vous vous en servez pour tisser des liens avec une somme de questions astronomiques et dans lesquelles vous ouvrez des perspectives nouvelles. Donc en même temps, il y a une diversité du point de vue des sources qui sont reliées à cet événement initial. Et en même temps, vous-même, vous prenez appui sur ces sources pour poser vos propres questions. Donc j'aimerais savoir ce lien entre le focus, ce double mouvement, le focus sur un événement singulier et en même temps la prise de distance radicale pour pouvoir prendre un point de vue qui annonce un questionnement plus fondamental, anthropologique, politique, etc. Car a priori, donc, on a l'histoire de la naissance de l'antipsychiatrie, et en même temps, le titre que vous proposez n'est pas antipsychiatrie, mais bien Mad Marginal, avec comme sous-titre tradition antipsychiatrique et marginalité comme position artistique. Donc comment vous associez vous-même les deux dimensions, à la fois d'une description du concret et d'une prise de distance plus théorique, plus abstrait, plus libre aussi, voilà, dans votre démarche en général et dans votre utilisation du document?
Donc en fait, je crois que d'abord il faut dire que la... l'objectif de la recherche n'est pas arriver à une certaine conclusion, mais c'est mon propre plaisir. Donc naturellement, c'est un point de vue subjectif, désordonné, sans, qui arrive à plein de dents, plein de cul-de-sac. Mais en fait, ce n'est précisément parce que ce n'est pas l'objectif, par impossibilité, si on veut arriver à certaines conclusions, mais simplement de... avoir du plaisir à considérer quelques hypothèses. Et donc, disons que le travail que j'ai toujours fait se concentre sur la relation entre le public et l'artiste, et qui peut se perdre, public-artiste, peut être extrapolé à acteur, audience, ou public, je crois, public, mais aussi individuel, individu, institution, société, individu. Donc c'est toujours cet aspect de l'individuel et les groupes. Donc à ce sujet-là, par exemple, j'ai beaucoup étudié aussi le travail d'Erwin Goffman, par exemple, et avec des livres comme Stigma, la Presentation of Self in Everyday Life, tout ça dans la façon dont l'individu, c'est les différentes stratégies qu'il utilise pour s'intégrer ou pas s'intégrer en société. Donc toujours en essayant de construire une façon de comprendre la figure de l'artiste. Et qui en fait, par nature, je crois que c'est un marginal, pas entièrement défini par sa profession, mais par son caractère. Donc l'idée de marginal, dans le sens de quelqu'un qui n'est pas tout à fait... qui se méfie des critères d'intégration, des succès social, des progrès social. Donc il y a des autres, ambitions dans la vie, et que ceux qui se considèrent maintenant comme les ambitions de la bourgeoisie, qui est par excellence les publics de l'art. Et, il y a ça, cette idée de marginalité. Par contre, il y a des grands marginales comme Walser, Kafka, par exemple. Ils sont cette double qualité, qui sont des grands marginales sociales, mais ce sont des artistes fondamentaux. Donc, ils ne sont pas du tout marginales en tant qu'artistes dans les discours de l'art. Il y a cette figure qui est importante, qui c'est l'artiste d'artistes, Donc, ça veut dire des artistes qui n'ont pas un rapport direct avec le public, mais qui ont été fondamentaux pour la construction du travail des autres artistes. Donc, j'ai une tendance, un goût pour ce type de gens. Et donc, j'étais, à partir de quelques lectures, qui a commencé bien sûr avec Asylums de Erving Goffman, mm-hmm. Qui était un peu la négociation, parce que je crois que la relation entre l'artiste et le public est toujours une négociation, la négociation de l'individu dans l'institution. J'ai commencé à lire les livres de Franco Basaglia, qui avait cette rapport social, surtout l'idée de, d'avoir l'intérêt pour les patients au lieu d'intérêt pour la maladie. Mm-hmm. Et de là à des autres gens plus radicaux comme Thomas Sats, qui niait qu'il y avait une maladie mentale et qui faisait un rapport purement social des problèmes de la psychiatrie. Donc, ce qui m'a vraiment attiré vers Basaglia et des autres de l'antipsychiatrie, c'est cette idée qu'il y a une notion qui est la périlicosité sociale, la périlicosité, on dit ça en français, social dangerousness, quelqu'un, un individu qui est dangereux pour la société. Mm-hmm. Un individu qui est dangereux pour la société. Donc, cette idée de danger qu'un individu peut avoir pour la société, c'est le concept, disons, qui a lancé les projets.
Et en même temps, oui, en même temps, quand on lit vraiment les documents, quand on rentre dans les écrits, quand on lit surtout les entretiens, par exemple, avec Lacan et un patient, ou quand on regarde le documentaire, dès lors qu'il y a vraiment des patients qui prennent la parole, j'ai cette impression, enfin, moi, j'ai tout de suite eu un sentiment de reconnaissance, au sens de me projeter moi-même dans ce personnage-là. Et vous parlez à un moment d'une notion que j'aime bien, j'ai lu ça dans un de vos articles, vous parliez justement sur cette limite fragile entre le fait d'être acteur, spectateur, performeur ou extérieur à l'œuvre d'art. Ce moment où le performeur entre dans son personnage ou en sort, et finalement c'est tout à fait invisible de l'extérieur, mais c'est simplement l'intention qui va modifier complètement le caractère et l'identité, en fait, donc le statut de son action.
Oui.
Et j'ai eu cette chose, finalement, comme si cette marginalité, elle était, d'accord, un trait caractéristique peut-être des artistes, mais elle était peut-être aussi présente en chacun d'entre nous. Est-ce que vous pensez que nous pouvons tous développer cette part de marginalité? Parce que finalement, on a comme ça ce retour sur nous-mêmes où on regarde autrement nos propres pathologies. Comme quand vous décrivez le lien entre être artiste et être maniaco-dépressif, ou
oui,
etc.
Oui, mais ce n'est pas moi qui l'ai décrit, c'est un test d'Eric Thaï, je crois, qui a cette... Bon, peut-être que je l'ai dit quelque part, mais il y a ces rapports très drôle où il dit que les gens, dans les créateurs, celles qui sont plus proches des gens normaux, quoi que ce soit, normaux, ce sont les écrivains des essais, des sons qui écrivent des essais, et les créateurs qui sont plus proches de la psychose, ce sont les femmes poétesses. Et ça, j'ai trouvé drôle, c'est une étude académique qu'il a fait, moi je trouve ça drôle précisément parce que la relation est sociale. Parce que aussi, il y a un autre article qui n'est pas là, mais que j'ai lu après, qui est de Howard S. Becker et qui s'appelle, maintenant je ne me rappelle pas certainement du titre, il construit en fait la carrière des musiciens de jazz qui à un certain moment doivent choisir entre être commercial et rester près de ces idéaux de création, en sachant qu'ils ne vont pas avoir un grand succès, en sachant qu'ils ne feront pas d'argent. En fait, je crois que c'est là, tout le monde, et c'est dans chacun d'entre nous. Mais c'est une question un peu de courage ou de caractère, peut-être, à un certain moment, ne pas faire ce qu'on attend de nous. Et donc il y a par exemple dans les écrivains de Kafka ou Vasel, il y a toujours ce moment où Kafka, on lui demande de se marier, par exemple. Et il accepte jamais. Il se marie presque tout le temps, mais il jamais arrive à se marier. Donc cette espèce d'impossibilité de commencer une famille, impossibilité d'apprendre à vivre comme tous les autres, je crois que c'est d'un côté un choix, mais aussi quelque chose d'inévitable. Dans le cas de Basel aussi, c'est la même chose. En certain moment, il aurait pu être un écrivain de succès, mais il a quelque chose qu'il peut... comme je dis, je ne sais pas jusqu'à quel point c'est voulu ou c'est inévitable. Et à un certain moment, il se rend compte que ce n'est pas ça ce qu'il veut, et donc il devient de plus en plus bizarre. Et finalement, il rentre en Suisse, et finalement, il rentre dans une institution psychiatrique. Quand, à un certain moment, on aurait pu dire qu'il serait un auteur de succès. Donc, je crois qu'à un certain moment, il y a ce choix, et que qui a des conséquences. Et c'est à chacun de la faire. Bien sûr, il y a tout ce n'est pas toujours si tragique, la chose. Donc, ce n'est pas... il y a des grands artistes qui ont des familles heureuses et tout ça. Mais je crois qu'il y a quelque chose de ne pas de résister aux expectatives des autres. Et dans un certain moment, c'est là qu'on construit une certaine... un parcours plus singulier que les autres, qui c'est ce qu'on... marginal ne veut pas dire nécessairement pauvre, avec de la femme mal habillée, mais c'est peu simplement quelqu'un qui suit un parcours un peu plus particulier que les autres, donc marginal.
Mais est-ce que dans votre dernier projet de Man I Love, est-ce qu'il n'y a pas déjà aussi l'idée d'une expérience quotidienne de la folie ou de certaines pathologies, de fait de la division entre l'idéal qu'on recherche et la réalité de la personne qu'on n'atteint jamais, et des choses comme ça qui sont plus au sens des actions quotidiennes, plus qu'une orientation radicale sur notre vie.
Oui, peut-être. En fait, il y a quelque chose que je crois, comme par exemple l'idée de Thomas Sats, que tout le monde ne fume pas tout le temps. Donc ça veut dire que tout le monde a des instants de folie. Donc c'est quelque chose qui est inhérent au langage, en fait, c'est ça ce qu'il croit. Et c'est à nous de... donc par exemple, comme aussi je crois que j'ai lu ça quelque part dans Critique clinique, l'art est une forme de santé. Donc ceux qui arrivent à travailler sur... à construire une œuvre, et ils sont un peu une garantie de santé. Et par contre, si on n'arrive pas à avoir quelque chose à laquelle se tenir, donc c'est plus difficile de comment on dit, de passer par ces périodes. Donc oui, je pense que c'est quelque chose qui est dans tous. Je crois que c'est une question de choix, et c'est aussi une question de construire des... Après, il y a la théorie de Cooper, qui était aussi très en vogue dans l'antipsychiatrie, et c'est qu'en fait, je ne sais pas si vous connaissez ce diagramme de Cooper, qui est dans... je ne sais pas s'il y a un livre ici, c'est dans les premiers livres qu'on a fait. Donc, il dit qu'on est ici, et à un certain moment, dans l'adolescence, on doit choisir entre rester normal, pour ainsi dire, ce n'est pas normal le mot qu'il utilise, mais comme tout le monde, suivre plus loin et aller dans ce qu'il appelle la santé mentale, et ça c'est le territoire de quelques privilégiés comme Joyce ou Kafka ou quelque chose comme ça, ou bien refuser d'aller plus loin et se prendre une retraite dans la folie. Donc c'est un peu, c'est trop, mais il fait ce cercle pour dire, pour indiquer qu'en fait quand on va en détour, on serait comme un cercle avec qui a un espace ici. Ici c'est la normalité, ici c'est la santé et ici c'est la folie. Et en fait la folie est beaucoup plus près de la santé que la normalité. Ça c'était sa thèse. D'accord. Donc on est beaucoup plus près d'être sain quand on est fou. Et son idée aussi, c'était qu'en fait, quand quelqu'un arrivait dans un hôpital avec une crise, normalement, c'était les membres de la famille qui étaient les plus sains. Donc, c'était lui qui avait refusé d'accepter un état de choses et que donc la seule sortie a fait cette idée aussi qui est très propre du siècle XXe, c'est que la folie, c'est une stratégie de curation. Oui. Donc, c'est la seule façon qu'on a de sortir de son état qui est insupportable.
Vision positive et créatrice. J'ai peut-être une dernière question concernant éventuellement une allusion à la religion. J'ai pas le souvenir d'avoir croisé ça dans un de vos documents, mais il y a plusieurs figures importantes qui se sont prises pour le Christ. Est-ce que vous pensez qu'il y a eu, en tout cas, est-ce qu'il y a eu un moment dans votre parcours où cette question-là s'est posée, c'est-à-dire par rapport à la figure du Christ qui était à la fois le fondateur d'une institution qu'est l'Église?
Non, il n'était pas le fondateur.
Non, oui, c'est ça, c'est-à-dire c'est indirectement, il est indirectement le directeur de cette fondation, en tout cas l'instigateur indirect, et en même temps celui qui se place contre l'institution qui est le groupe des pharisiens. Donc c'est aussi une invitation à être toujours sur la limite, comme ça. Cette figure christique, est-ce qu'elle vous a...
Oui, c'est curieux ça, mais ce n'est pas Christ, c'est... Donc par exemple, pour raconter avec une anecdote, j'ai participé à une expo qui s'appelait le Jérusalem Syndrome, le syndrome de Jérusalem. Et en fait, je ne savais pas parce que c'est ça, on m'a expliqué qu'à Jérusalem, où il y a des pèlerins, qui vient de tout le monde, il y a un syndrome qui fait que les gens se prennent pour Jésus, ah oui, ou qui se prennent pour Saint-Pierre, ou par une figure de la passion de Christ. Mais il y a donc des protestants, catholiques, des hétérodoxes, et il y a des sectes comme des coptes, non pas des sectes mais des religions comme les coptes, des religions très anciennes. Et après, mais c'est aussi, il y a des juifs qui se prennent pour Moïse ou pour Abraham, mais il n'y a jamais eu un cas d'un musulman qui se prend pour Mohammed ou quoi que ce soit.
Donc, ça pourtant laisse... c'est les mêmes textes, et pourtant je pense qu'il y a, il y a quelque chose de l'ordre de la marginalité qui est effectivement en tout cas ancré dans le judaïsme déjà, dans le fait d'un peuple qui est toujours en errance, qui est toujours faible, qui est fort dans sa faiblesse, qui est à la fois le peuple élu et le peuple rejeté.
Oui, mais c'est pour ça, le fait que ça, c'est pas seulement dans les... Il ne faut pas oublier que le christianisme vient du judaïsme.
Oui, oui, bien sûr, mais c'est pour ne pas réduire non plus au
christianisme. Mais je crois que ça a à voir avec cette idée du bouc émissaire, qu'il y a le Christ. Donc, l'idée que quelqu'un prend l'idée du bouc émissaire, c'est comment on dit, cet animal qui était une, comment on dit, un goat, vous savez, avec des cornes comme ça.
Le bouc.
Un bouc, oui, un bouc, ouais, voilà. C'était un bouc et on envoyait au dessert pour prendre les péchés de la communauté. Et ça, c'est aussi le sens du mot Christ. Et donc, je crois que c'est plutôt une réaction à une personnage. Qui est par force identifié avec les psychotiques, qui sense que lui, c'est celui qui est
en charge. Ça marche avec le sentiment de culpabilité, c'est vrai qu'il y a quelque chose là. La première marque de la psychose, c'est surtout la culpabilité, la faute.
Oui, bon, c'est ça ce que j'imagine. D'un autre côté, ce n'est pas le fait de penser qu'on est quelqu'un d'autre. Par exemple, tous les enfants ont toujours pensé un jour que ses parents n'étaient pas ses parents, mais qu'en fait, ils étaient les fils ou la fille de quelqu'un beaucoup plus important. Et c'est une espèce de fantaisie récurrente dans les préadolescents. Mais après, et je crois qu'il y a des gens qui se croient les rois, les fils d'un roi qui est l'héritier du trône. Donc ce n'est pas seulement le Christ, il y a comme une espèce de désir de se sentir quelqu'un qui a été, qui est, comment on dit, désigné pour faire quelque chose de grand, mais qu'on ne lui laisse pas. Je crois que c'est quelque chose de très typique. Je crois parce que, comme je dis, je ne sais pas, je n'ai pas d'expérience scientifique sur ça, mais on répète quand je vis des films. Il y a toujours des gens qui... Toujours la même histoire récurrente. Il y a des princesses, il y a des comtesses. Il y a des gens vraiment qui trouvent qu'ils sont d'origine noble. Et ce qui est tout à fait... Toujours cette histoire, ils ont été abandonnés quand ils étaient enfants dans sa propre famille, en fait, qui est pauvre, etc. Je crois que c'est une réaction, une stratégie de protection tout à fait normale.
Merci. Donc... Je me permets de présenter donc une petite réflexion aussi pour laquelle je me suis plutôt centrée sur moins l'antipsychiatrie comme telle, parce que c'est sûr qu'on pourrait en parler pendant longtemps, en fait, parce qu'effectivement, dès qu'on rentre dedans, ça n'arrête pas de nous exciter, en fait, de nous attirer. Mais aussi beaucoup sur votre geste, en tant que geste artistique, de proposer une somme d'archives, une sélection, comme ça, dans une boîte, avec donc une masse de documents, des documents qui sont très denses, en beaucoup de langues différentes, donc qui donnent un aspect qui peut nous perdre, et qui en même temps séduisent, sont légers, faciles à lire parce qu'on est pris dedans, etc. Donc sur cet équilibre, sur ce jeu, et voilà, c'est toujours difficile de savoir comment appréhender un amas de documents de ce type et surtout de savoir dans quel registre on se trouve vraiment. Alors vous disiez que vous aimez bien travailler sur les limites entre les différentes institutions. Bon, effectivement, donc il y a des textes qui seraient plus de la sociologie, anthropologie, philosophie, etc. Mais pourquoi, au final, cette œuvre-là est présentée comme une œuvre d'art? Et qu'est-ce qui fait son statut d'œuvre d'art?
Je ne pense pas que l'idée de ce livre est que ça, c'est une œuvre d'art. Je crois que ça se présente comme un archive.
Moi, je crois, pense. Je crois
ou un livre d'artiste, si vous voulez, mais ça, ce n'est pas tout à fait la même chose qu'une œuvre.
Oui, d'accord. Alors, dans ce cas, ce que j'appellerais l'œuvre, ce que vous appelleriez l'œuvre, ce serait l'ensemble, parce que c'est quand même, vous y ajoutez tout le temps, c'est comme un organisme vivant dans lequel vous ajoutez tout le temps des parties. Quand vous faites une performance ici, une conférence là, une rencontre, et tout se greffe à ce projet. Et dans ce cas, ce qui fait œuvre, ça serait tout ce processus-là, c'est ça que vous voulez dire?
Bon, pour être honnête, ça, je ne me pose jamais cette question.
Oui, mais ça, je pense que c'est sûrement, effectivement, une question qu'on se pose de l'extérieur.
Oui, mais bien sûr, je vais bien répondre sur ça. En fait, il n'y a aucune obligation de considérer ça comme une œuvre d'art. Pour moi, j'ai travaillé pendant 20 ans, peut-être, depuis que j'ai fini mes études, ça fait environ 20 ans que j'ai fini, exactement 20 ans. Et donc, dans ce parcours, disons que j'ai arrivé à plusieurs idées ou conclusions, et simplement j'ai pris l'idée qui m'aidait le plus à travailler. Donc, l'idée qui m'aidait le plus à travailler, c'est de considérer l'art comme une espèce d'épitome de l'activité humaine. Et qui, donc, que précisément parce que ça n'avait aucun objet, aucune façon d'être identifié, et aucune fonctionnalité et aucun but. Et c'est pour ça que ça permettait que ça soit l'épitome de l'activité humaine. Donc, ça veut dire que n'importe quel objet, n'importe, même aucun objet, et n'importe quelle activité, même aucune activité pourrait être compris comme une œuvre.
Oui, mais est-ce que vous pensez que justement ce n'est pas cet aspect d'absence de finalité et d'une part de liberté aussi dans l'appréhension des documents qui fait que c'est précisément une œuvre d'art et pas une recherche d'un autre type? On va souvent consulter des documents dans un but plutôt utilitaire, c'est-à-dire pour répondre à des questions qui s'inscrivent dans une discipline particulière, etc. Et il y a aussi cet aspect de vouloir présenter un portrait fidèle à l'événement dont on relate. Or, c'est pas votre question. Vous vous servez de l'événement, qu'il soit fidèle ou pas, quelle que soit la nature du document, que ce soit une carte postale qui appartenu à, ou alors la copie de cette carte postale, ou alors un document annexe, etc. Il y a cette idée plutôt de faire naître quelque chose à partir de là. Mm-hmm. Et donc, indépendamment du fait qu'il s'agisse d'un original ou non, d'un regard objectif ou non. Donc c'est aussi là où je dirais qu'on nous amène précisément ailleurs, et que c'est ça le geste artistique d'une certaine manière, cet amener ailleurs, ne pas vouloir regarder le passé pour lui-même, c'est-à-dire à distance, dans une objectivité, etc. Mais de voir comment ce passé, d'une certaine manière, demeure vivant dans les questions qu'il nous pose aujourd'hui, comment il peut encore agir sur aussi sur un, un point de vue politique et social sur les décisions qu'on peut prendre actuellement, sur les positions qu'on peut prendre actuellement, les propositions, les idées, la manière dont on peut proposer des projets, que ce soit pas seulement tourné vers le passé pour lui-même, mais vraiment annonceur de quelque chose qui se continue. Et je pense que là, il y a un geste où on permet au passé, par le support des documents, de se diffuser, de continuer à agir d'une certaine manière. Comme toutes les questions que se sont posées, Bassaglia, Leng, etc., toutes ces personnes-là, comment on peut, grâce à eux, d'une certaine manière, aller plus loin encore dans leurs gestes révolutionnaires et chercher finalement à faire durer ce geste révolutionnaire, finalement, l'actualiser, le rendre présent. Et je ne sais pas, voilà,
c'est la chose. Je crois qu'il y a, sans doute, il y a sa volonté dans les livres, on va l'appeler les livres, mais je ne suis pas sûre que ça garantit aucune qualité artistique. Donc je veux dire, moi je n'essayerai jamais de défendre la qualité artistique de mon travail. Donc c'est une question que je ne peux pas répondre. Donc si quelqu'un me demande pourquoi ça c'est de l'art, je ne pourrais pas répondre. Je ne peux pas le dire. Donc si quelqu'un ne veut pas le considérer comme de l'art, c'est OK pour moi.
Est-ce que ce n'est pas justement le fait que le document-là, finalement, il est aussi vecteur d'une création. Vecteur d'une création qui est l'événement comme tel. C'est-à-dire la création, ça peut être l'inauguration du mouvement antipsychiatrique. C'est une création. Vecteur d'une création en tant que c'est un appel à utiliser ce qui nous rend marginal pour pouvoir l'exploiter. Et finalement, en développer la vertu positive. Et je pense que c'est un appel à l'action aussi. C'est-à-dire que ça nous concerne directement. Mm-hmm. Et plutôt, peut-être moins comme création en tant qu'objet, mais vecteur de création en tant qu'appel, mm-hmm. d'une certaine manière.
Oui, mais je ne suis pas sûre que ça c'était une définition d'art non plus. les bonnes intentions ne font pas un travail d'art non plus. Et moi, comme je dis, je ne peux pas défendre la qualité artistique. Je pense que ça, c'est un livre et pas une œuvre d'art. Et il y a des qualités. J'aime bien, par exemple, faire des références à la tradition parce que je crois qu'il y a des structures qui sont efficaces. Donc, les structures des multiples, les structures des livres d'artistes, par exemple, si on veut, je crois que ça se rapproche de ça dans la façon dont c'est fait. Oui. Donc il y a l'idée des facsimiles, donc l'idée de traduire un procès de travail, je crois que c'est quelque chose d'important. Et je crois que c'est la volonté qu'on a eue pour faire spécifiquement ces livres de Rose Escape, c'était reproduire une façon de travailler. Et donc comme une espèce de snapshot, une façon de travailler, mais aussi, ça c'est peut-être plus proche de l'idée d'art, il y a une certaine beauté des idées. Et moi, je crois que je sais bien que ce n'est pas très populaire parler de beauté, mais je crois par exemple que les idées ont une beauté indéniable.
C'est ce que j'allais vous demander. Ouais. Donc, j'allais demander deux questions en fait. C'est que du coup, vous dites que vous le considérez plutôt comme un livre. Ma question c'était est-ce que ça vous est arrivé de considérer au contraire un livre comme une œuvre d'art, un livre d'un sociologue, d'un anthropologue, etc. Précisément pour ce caractère de la beauté des idées. Je trouve que c'est un point en fait qu'il faudrait vraiment développer, qui est intéressant. Et inversement, qu'est-ce que vous considéreriez dans votre travail comme objet d'art ou création artistique? Parce que dans ce cas, votre création, ce serait plutôt définie en termes de performance. Par rapport au Amène marginal, qu'est-ce qui fait œuvre d'art selon
vous? Je ne sais pas.
Et par rapport aux autres pièces?
Je ne sais pas non plus. Par exemple, je peux dire, il y a des travaux où je me sens fière, mais je ne sais pas si c'est parce que ce sont des œuvres d'art ou simplement parce que je trouve que j'ai découvert des choses, que ça a touché les gens, et que ça a ouvert des chemins de faire. Donc, il y a des pièces comme par exemple ce que j'ai fait à Munster. de Beggar's Opera, qui ouais. était fait à partir d'un personnage de Bertolt Brecht, qui en fait aussi des choses comme Forever, que c'est un travail que j'ai fait pour les FRAC Metz, qui est simplement une caméra qui est placée dans un musée. Je crois que ce sont des... Là, je pense que ça pourrait dire que ce sont des œuvres d'art, d'abord, parce que ça s'inscrit dans, ça, dans la fonction de l'art. Donc, ils travaillent sur des structures qui sont spécifiquement des structures artistiques, les grandes expositions, les fracs, les centres d'art, donc aussi qui ont une fonction artistique dans la communauté. Donc, ils sont inscrits là et ils changent quelque chose là. Ils changent une façon de regarder, ils, comme on dit, betray, ils trahissent les expectations, donc ils forcent à questionner les idées reçues. Et donc, dans ce sens-là, je dirais que ça se rapproche beaucoup à ce que je crois que c'est une œuvre d'art.
Oui, mais c'est ce que fait aussi ce projet-là. D'une certaine manière, on a une boîte avec une somme d'archives, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Donc, on est aussi dans ce registre.
Oui, probablement, oui. Mais cette... ça serait une partie pour moi, par exemple, comme j'ai dit dans ce travail à Munster, il y avait une performance qui était vue par façon casuelle par très peu de gens. Donc, disons, on ne pouvait pas, comme public, garantir qu'à une certaine heure, on allait voir une œuvre d'art. Il fallait travailler pour ça, il fallait presque faire une espèce de recherche pour rencontrer l'œuvre. Mais après, il y avait aussi les blogs en Internet, de là où sortaient les livres, et après, il y avait les présentations sur le théâtre. Donc, ce que j'aimais bien de ça, c'est qu'il y avait des morceaux et il n'y avait pas moyen de prendre l'œuvre dans sa totalité. On pouvait prendre, comme je crois que ça se passe dans la vie ou dans toutes les choses, on peut prendre seulement une petite pièce de quelque chose qui doit, de façon métonymique, représenter le tout. Et je pense que ça, par exemple, ce livre qu'on a fait, c'est une partie de quelque chose et qui en fait, ça fait essayer d'encercler une chose que je ne suis pas sûre encore qu'est-ce que c'est. Donc, ils sont les vrais sujets du travail, je ne suis pas encore sûre de qu'est-ce que c'est. Je crois que c'est un essai de cercler ça.
Encercler.
Oui, d'encercler ça.
Bien, merci.
Ok, c'est fini.
Je vous propose à présent une reprise de l'entretien que vous venez d'entendre. Je lui ai donné comme titre « La poétique du document ». Le projet Mad Marginal est un amoncellement sans fin de documents d'archives. La pièce présentée à Rosascape donne une sélection d'entre eux, mais il s'y ajoute sans cesse de nouveaux éléments. Des interviews, des rencontres, des documents récemment découverts par l'artiste, des traces de sa dernière lecture... Et j'en passe. Ces documents racontent des histoires, et en particulier une histoire autour de laquelle tous les autres gravitent, de près ou de loin, la naissance de l'antipsychiatrie. Nous sommes ainsi amenés à mesurer l'écart entre la finalité propre d'un document d'archive et celle que lui donne Dora Garcia. On attend d'un document d'archive qu'il restitue un événement passé de manière objective. Dora Garcia l'utilise davantage pour faire émerger des réflexions. Elle s'en sert comme d'un support qui nous invite à une interrogation d'ordre théorique, mais aussi à partager une expérience. L'affect n'est pas mis de côté, alors même que l'objet du dossier d'archives peut paraître rébarbatif et froid. Il est effectivement question de plaisir, le plaisir de l'artiste, vagabondant dans ses chemins de pensée et ses bribes d'histoire éclatées, est certainement l'un des fils conducteurs de son travail de recherche. C'est un plaisir de même nature qu'éprouve le lecteur en entrant dans ses documents et qui le guide dans ses lectures. Dans notre entretien, Dora Garcia déjoue toutes mes tentatives visant à présenter la valeur artistique de son travail. Elle désire en effet briser la limite qui isole une catégorie d'objets ou d'actions méritant le titre d'œuvre d'art. Mais elle laisse s'échapper un mot absolument central, la beauté, et elle ajoute la beauté des idées. Comment définir cette beauté et comment la reconnaître? Comment la lier au plaisir que nous venons d'évoquer? La beauté, serait-ce le fait pour un objet, un texte ou une image, de nous faire découvrir quelque chose de nouveau et, dans cette découverte, de ressentir de la joie? Cette conception n'a probablement rien à voir avec la beauté rétinienne au sens qu'avait donné Duchamp et qu'il condamnait. C'est une beauté qui assume et dépasse les positions réfractaires de l'époque moderne parce qu'elle est pensée autrement. Le désir de sortir du monde de l'art que développe Dora Garcia concerne surtout le monde institutionnel de l'art, mais il peut être compris aussi comme un retour à l'essentiel. Il n'y a de marginalité qu'en référence à une norme, l'un ne va jamais sans l'autre. C'est ainsi qu'être marginal pouvait consister hier à rejeter l'idée de beauté et aujourd'hui à la mettre en avant. Ce qui était marginal devient la norme et inversement. En faisant référence à la beauté, Dora Garcia s'inscrit dans une tradition artistique, cela est indiscutable. Ainsi, de la réflexion sur l'écart entre l'image et le réel dont j'étais partie pour orienter mon interview, je me suis dirigée sur le concept de métaphore. Il devait y avoir chez Dora Garcia un usage métaphorique du document qui l'éloigne définitivement du travail de n'importe quel chercheur en sciences humaines. Cette observation m'a amenée à redécouvrir un petit livre de Paul Ricoeur, La métaphore vive, qui commente les deux fonctions de la métaphore conçues par Aristote, la fonction rhétorique et la fonction poétique. Une référence d'autant plus intéressante que Ricoeur, pour parler de la métaphore poétique, reprend la définition aristotélicienne de l'art comme imitation de la nature. Au même titre que la beauté, l'imitation évoque une conception de l'art pouvant paraître tout à fait désuète et inactuelle. Mais Ricoeur définit cette imitation de manière nouvelle et suggestive. Cette lecture m'a permis d'appréhender autrement le projet Mad Marginal. Le document d'archives mobilisé dans ce travail est par nature un document qui imite et copie des événements. Ricoeur, reprenant la définition aristotélicienne de l'art comme imitation de la nature, veut éviter les contresens. Il prend donc le soin de rappeler qu'Aristote distingue la poétique et l'histoire. Dans les deux cas, il s'agit d'imiter la nature, mais de manière radicalement différente. L'histoire est une étude des faits particuliers. Elle procède par une description fidèle et se soumet ainsi au réel qu'elle observe. La poétique est une création. Qu'elle repose ou non sur des faits particuliers réels, elle dépasse les limites du donné factuel. Dans son projet, Dora Garcia opère une translation d'un ordre vers un autre. Elle extrait des données du réel, de leur contexte historique, et les déplace. Ce qui distingue le travail de l'artiste des domaines tels que la sociologie ou l'histoire, c'est le fait qu'elle consulte des documents sans finalité particulière et sans souci de précision ni d'objectivité. Elle les manipule librement, ceci devenant ainsi l'expression de sa propre singularité, véhiculant un large registre d'idées et de sentiments. Le déplacement que Dora Garcia fait subir au document est tel que le thème matriciel, l'antipsychiatrie, s'efface au profit d'une réflexion fondamentale sur l'art et la figure de l'artiste. En effet, chaque fois qu'il est question du fou, un être hors de la société, marginal, producteur d'images mentales, vivant dans un monde intérieur, reconnu fou par une institution, c'est l'artiste qui est immédiatement mis en perspective. L'artiste, hors de la société, producteur d'images, créateur d'un monde, reconnu artiste par une institution. La référence à l'antipsychiatrie n'est cependant pas un prétexte pour s'élever du réel vers un registre abstrait, idéal. C'est un déplacement vers un autre ordre de réalité, vers un réel qui n'est pas factuel ni enfermé dans le passé, mais dynamique et tourné vers le présent, ainsi que vers l'avenir. Il s'agit non plus des mondes des hôpitaux, mais le monde des galeries et le monde des galeries aujourd'hui et demain, et toujours. Dans le cas du document d'archives, tel qu'il est utilisé par Dora Garcia, c'est-à-dire dans un usage métaphorique et poétique, l'imitation de la nature est donc à la fois une restitution d'événements, d'actions humaines, mais aussi et surtout un déplacement. Rapprocher à ce point la figure de l'artiste et celle du malade mental, du fou, n'est pas une proposition nouvelle en soi, ni même une proposition spécifiquement artistique. C'est l'insistance ainsi que le style de Dora Garcia qui lui permettent cette dimension. À son fondement, l'antipsychiatrie était un mouvement révolutionnaire global, qui excédait donc le domaine de la médecine pour mettre en jeu des problématiques sociales importantes. Mais l'accent que porte Dora Garcia sur cet exact parallèle entre la folie et la création artistique n'en reste pas moins original et singulier. Rosascape a présenté, à la demande de l'artiste, une rencontre publique entre Dora Garcia et Esther Ferrer, une artiste qui a participé activement au mouvement antipsychiatrique. Du fait de cette expérience directe, Esther Ferrer n'a pas du tout la même vision sur ce phénomène que Dora. Son regard est plus factuel. Dora Garcia se situait quant à elle sur un tout autre niveau. Utiliser l'antipsychiatrie comme une métaphore qui dévoile une vérité fondamentale sur la situation de l'artiste, quelles que soient les époques et les combats. C'est pourquoi, pour respecter la position de l'artiste, je n'utiliserai pas le concept d'œuvre d'art pour qualifier le travail de Dora Garcia. Qu'il me soit permis alors d'employer celui de poésie. N'ayant aucune prétention objective ni aucune méthode rigoureuse de l'ordre de la recherche scientifique, l'artiste s'écarte de l'événement comme tel pour penser ses enjeux, ses conséquences et la vérité qui s'en dégage. Une vérité sur l'art et la pratique artistique qui se fait sentir ou se manifeste au travers des documents. Instrument d'un témoignage singulier, il nous délivre une réflexion d'ordre existentiel et de ce fait universel. Théodora Domenech.